Des médecins français viennent d'établir une liste de 150 médicaments qui seraient suffisants pour traiter 95% des maladies dont souffrent les Français. C'est le magazine Science et Vie qui révèle cette première liste des médicaments indispensables parmi les 5000 actuellement disponibles. Avec nos invités, on vous raconte comment a été élaborée cette liste par un groupe de médecins et quels sont les critères qui permettent de dire qu'un médicament est essentiel par rapport à un autre. Et puis on évoquera également dans la dernière partie de ce dossier les révélations de Mediapart qui dénoncent les arrangements de membres de la commission de la transparence avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Vos messages, toutes vos questions dès maintenant, nous sommes en direct. On se retrouve sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, la découverte d'un chaînon manquant sur l'évolution de notre univers.
Oui, des amas de galaxies vieux de 10 milliards d'années formés par des halos de matière noire. Vos questions sur la jeunesse secrète de notre univers, c'est dans un instant sur Twitter, hashtag l'attaque.
Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
150 médicaments seraient donc suffisants sur les 5000 actuellement sur le marché pour traiter la plupart des maladies. Professeur Claire Lejeune, Caroline Tourbe et professeur Michel Thomas, bonjour à
bonjour.
Tous les trois.
Bonjour.
Caroline Tourbe, c'est donc votre magazine Science et Vie qui a eu accès à la première liste des meilleurs médicaments. Ça signifie donc que des milliers d'autres ne servent absolument à rien?
Alors ça signifie qu'en tout cas on arrive à se mettre d'accord quand on se met autour de la table pour dire que oui, il n'en faut pas tant que ça des médicaments pour soigner 95% des maladies, donc les maladies principales dont souffrent les Français, 150, ouais. 200, le chiffre est discutable. Ça signifie que donc, les autres médicaments, dans le lot, il y en a qui sont totalement inutiles. Mm-hmm. Parfois, certains sont dangereux. Il y en a d'autres qui sont extrêmement utiles, mais pour une petite frange de la population, frange plus ou moins grande, mais voilà. Il y en a d'un côté qui sont essentiels pour la majorité, grande majorité des Français et qui sont malades, et puis une autre partie qui n'est pas essentielle.
Professeur Michel Thomas, c'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative. Il vous a fallu du temps pour parvenir à établir cette liste?
Oui et non. Oui, parce que ça fait bientôt 4 ans que nous avons commencé à travailler. Non, parce que beaucoup de travail était nécessaire et la liste dont fait état l'article de Science et Vie a été publiée en poster au congrès de la Société française de médecine interne en décembre 2013. Donc, depuis, on continue de travailler pour l'améliorer, pour la valider largement. Et donc, c'est un travail qui a suivi, je crois, jusqu'à présent, normalement son cours et dont nous espérons les publications complètes d'ici à la fin de l'année.
Bien, et puis vous nous direz évidemment comment vous êtes parvenu à élaborer cette liste. Professeur Claire Lejeune, vous participez également à un ouvrage, La vérité sur vos médicaments, dont on parle beaucoup, qui vient de sortir. Alors là, l'idée, c'est justement de dire quels sont les médicaments dont l'action est scientifiquement prouvée en tous les cas. Il y a un grand ménage là, à faire dans ce domaine?
Alors, un grand ménage, je ne sais pas. Ce qu'on a souhaité faire avec cet ouvrage, c'était de prendre justement les pathologies les plus fréquentes et de faire un point par rapport à toutes les dénonciations qui avaient pu avoir lieu antérieurement, pour essayer de clarifier les pensées dans la tête de nos concitoyens, en sachant que le nombre de livres qui sortent peut parfois être plutôt source de confusion que de clarification.
Guide, hein. C'est un guide autour
c'est
médicament.
C'est un guide, c'est une réflexion d'experts en tout cas sur chaque chapitre.
Et puis à la fin de notre dossier, Pascal Pascariello, on fera avec vous un éclairage sur un article que vous venez de publier pour Mediapart avec Michael Hachdenberg et dans lequel vous dénoncez un système d'entente entre des hauts responsables du médicament en France et des laboratoires pharmaceutiques. Les conflits d'intérêts, c'est donc visiblement toujours une réalité dans ce domaine de la santé du médicament. Hein.
Complètement, oui. L'affaire du Mediator n'a pas changé grand-chose finalement. C'est ce dont on s'est rendu compte avec Michael après 9 mois d'enquête. Parce que ça a été assez difficile, il y a une certaine omerta dans ce milieu. Effectivement, on se rend compte que les membres de commissions qui sont supposés indépendantes, de la Haute Autorité de Santé ou de l'Agence du Médicament, conseillers...
Et faire toute la transparence. Hein.
Et justement, avec la commission de la transparence en particulier, conseiller les laboratoires secrètement et pour ça a été rémunéré.
Oui, on en parlera évidemment avec vous. Il y a déjà des conséquences intéressantes autour de la publication de cet article. Et on se retrouve avec les auditeurs, tous les messages franceinter.fr. Allez, le retour de la Une de la Science également aujourd'hui avec un chaînon manquant dans l'histoire de l'univers. Les observations conjointes des satellites Planck et Herschel ont permis effectivement de découvrir d'étranges galaxies lointaines formant d'impressionnantes quantités d'étoiles. Une observation qui pourrait nous renseigner en tous les cas sur une période cruciale de l'histoire de l'univers, la formation des premières grandes structures. Bonjour Hervé Dolle.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique à Orsay, professeur à l'Université Paris Sud. Vous avez coordonné une partie des travaux publiés donc mardi dernier par le CNRS. Qu'avez-vous observé de si important donc dans les tréfonds, dans la noirceur de l'univers?
Dans la noirceur de l'univers, ouais. Nous avons découvert des agrégations, des ensembles de galaxies assez incroyables auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et ces agrégations très intenses, en fait, sont probablement le fait de galaxies très lointaines et donc peut-être des prémices d'amas de galaxies. Et effectivement, c'est un chaînon manquant. On connaît relativement bien le début de l'histoire de l'univers, même s'il y a toujours des interrogations fondamentales. On connaît relativement bien ce qui se passe plus proche de nous, mais il y a une zone un peu grise qui mérite d'être explorée, et on a l'impression que cette découverte permet de mieux comprendre ce processus de formation des structures, comme on l'appelle.
Vous êtes parvenu à les dater, alors, du coup, ces amas de galaxies ?
Alors, oui et non, comme disait mon collègue tout à l'heure sur une autre question. Oui, par des indices concourants. Non, on ne l'a pas encore prouvé complètement. Donc on a plein de faisceaux, plein d'indices concourants qui nous disent que c'est à peu près vers 10, 11 milliards d'années de temps de regard en arrière. Donc
c'est de la vieille galaxie quand même là. Hein.
Alors elles sont très jeunes. Pour nous, elles sont vieilles parce qu'elles sont loin.
Aujourd'hui.
En fait, elles sont très jeunes.
Aujourd'hui.
Oui, elles sont dans un univers très très jeune qui est à peu près 3 milliards d'années sur les 13,8 qu'il a aujourd'hui.
Comment on date justement une galaxie? Comment on s'y prend?
Alors, la méthode la plus sûre, c'est de faire un spectre, c'est-à-dire que vous allez sur un très grand télescope, au Chili ou ailleurs, vous détaillez sa lumière, et puis vous voyez des raies d'émission, donc par exemple l'hydrogène qui illumine, vous comparez sa longueur d'onde par rapport à la longueur d'onde de repos, et vous voyez un décalage Doppler, c'est un peu comme, vous savez, les voitures qui passent le long de l'autoroute, si vous êtes en panne, vous entendez un bruit qui change, la lumière c'est pareil, comme l'univers est en expansion, les galaxies rougissent, et on mesure ce rougissement, et c'est tabulé, on appelle ça le redshift, et c'est très bien mesuré. Manque de chance, nous on n'a pas encore cette information, parce que c'est très long, très coûteux, très compliqué. On a de l'imagerie avec nos satellites, on a des images dans plusieurs couleurs, plusieurs fréquences de la lumière, et on a ce qu'on appelle un redshift du pauvre, c'est-à-dire grâce à l'intensité dans différentes couleurs, on peut, avec des modèles, remonter à une estimation de la distance.
Donc c'est en faisant rougir les galaxies qu'on arrive à en déterminer l'âge.
Exactement, exactement.
Axel.
Sur Twitter, Christophe qui nous demande, sait-on en combien de temps elles se sont formées? Parce qu'on connaît leur âge, mais leur formation.
Alors, la réponse aujourd'hui là est non. Avec nos modèles, on peut avoir une estimation, c'est plusieurs millions d'années. Le problème un petit peu fondamental de tout ça, c'est que les recettes qu'on applique sur les galaxies qu'on vient de découvrir, en fait, ces recettes ont été établies dans un univers très proche de nous aujourd'hui. Or, on ignore si ces recettes sont valables à très grand redshift. Même pour être précis, on sait qu'elles sont fausses. Donc, on ne sait pas de combien elles sont fausses. Donc, on peut donner une estimation, mais tout reste à prouver, cependant, sur la validité de ces modèles. Le problème, pour le dire simplement, c'est que vous avez du gaz qui est de la matière traditionnelle, toute la manière dont nous sommes faits. Une somme de poussière d'étoiles, vous connaissez cette expression, qui en fait se condense pour former des étoiles. Ça, on arrive à peu près à le comprendre. Ce qui pose un peu plus de problèmes, c'est quand ça tombe par la gravité, ça tombe dans des endroits qu'on appelle de la matière noire, et on n'arrive pas bien à comprendre la relation entre cette matière noire et cette matière visible, enfin cette matière traditionnelle, et on sait que cette relation change avec plein de paramètres, l'âge de l'univers, la distance, l'environnement, etc. Et donc, si on a des recettes physiques relativement fiables et prouvées dans l'univers d'aujourd'hui, enfin jusqu'à disons la moitié de son âge, on ne sait pas à chaque fois dans quelles conditions tel modèle ou tel modèle s'applique. Donc en fait, c'est ça le défi, c'est comment faire sens, comment rendre un sens à tout ça, sachant qu'on a une théorie qui est quand même relativement bien solide, qui est même très solide, mais il y a plein de détails qui nous sont encore relativement inconnus.
Alors justement, on parlait du chaînon manquant de la cosmologie, et il y a encore une affaire de matière noire là-dessous.
Toujours, la matière noire nous agace, c'est fascinant parce que...
Elle est mystérieuse et en même temps, elle est tout le temps présente.
On l'apprend que telle qu'elle vient dans nos modèles et dans nos observations. Alors un petit retour en arrière, le satellite Planck a mesuré l'origine de l'univers avec la lumière du fond cosmologique. Et ça nous a permis de montrer que si on introduit un ingrédient qui est la matière noire, tout fonctionne parfaitement. Manque de peau, quand on met cette matière noire après pour former des galaxies, on se rend compte qu'il y a des petits problèmes. Aucun modèle à ce jour ne permet de rendre compte des observations. Et donc on essaie de, avec des observations telles qu'on vient de faire, ces premiers amas de galaxies potentiels, de mettre des contraintes sur comment la matière traditionnelles jouent avec la matière noire dont on imagine qu'elle existe, même si on n'a aucune information, si elle est relativement pas trop prédite par les modèles et, et par la théorie.
Donc il y a un rôle très important quand même, ça on peut l'imaginer.
Aujourd'hui, on estime, en tout cas les cosmologistes comme moi, utilisent la matière noire comme on respire de l'air aujourd'hui ou comme, voilà, ou comme l'eau qu'on boit. On estime que c'est un ingrédient essentiel, c'est pas encore prouvé formellement, mais c'est un ingrédient qui fonctionne admirablement dans tous les domaines de l'astrophysique. Après, ça peut être mis en cause éventuellement.
Axel ?
La suite maintenant, donc, c'est continuer de regarder dans la même direction, plus précisément, pour essayer de comprendre comment toutes ces galaxies se forment.
Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, effectivement, il y a raffiner les observations qu'on a eues avec Planck, le satellite Planck européen et Herschel.
Il faut dire qu'il pourrait y avoir un problème d'illusion d'optique quand même. Donc ça, il faut faire très attention.
Il faut être très précautionneux. Sur à peu près la 200aine d'amas potentiels qu'on a, il peut y en avoir une grosse moitié qui est due à des alignements fortuits sur la ligne de visée. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que des images. On n'a pas la troisième dimension. Donc, il est tout à fait possible que cela existe, des alignements fortuits. On a d'autres données qui ne sont pas encore publiées, qui proviennent du satellite Spitzer de la NASA, avec lequel on a beaucoup travaillé, qui semblent nous montrer que dans l'essentiel des cas, ce n'est pas le cas. Mais ça reste encore à prouver. Donc, ils ont une grosse moitié probablement, j'insiste lourdement, de vrais amas. Alors, la question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On peut faire plusieurs choses. D'abord, continuer ces observations pour prouver ce qu'on avance, parce que là, ce sont des hypothèses étayées, mais pas encore prouvées finalement. Et puis, il y a aussi faire travailler nos collègues théoriciens et simulateurs, parce qu'on a toujours ce problème des modèles qui ne reproduisent pas ce qu'on mesure aujourd'hui. Alors, avoir des points à différentes époques cosmiques et avec différents paramètres les aidera et nous aidera par voie de conséquence à essayer de mieux comprendre le rôle. Enfin, le jeu un peu caché, le jeu de cache-cache entre la matière visible, enfin la matière traditionnelle, et cette fameuse matière noire.
Ouais. Donc ce sont vos œufs de Pâques à vous, cette découverte finalement, ces amas de galaxies.
C'est pas aussi bon que du chocolat, mais ce sont nos œufs de Pâques quand même.
C'est la belle surprise quand même de ces derniers jours.
Pour vous, nous, ça fait 4 ans qu'on y travaille aussi.
On est toujours surpris, qu'est-ce que vous voulez, on est
mais il faut.
Nous sommes toujours innocents et épatés par ce que vous nous racontez à longueur de publication, et donc encore beaucoup de travaux.
Encore beaucoup de travaux et des doctorats en cours, etc. Autour
de ces observations d'objets rares, donc ces amas de galaxies. Merci infiniment, Rédol, d'être venu en ce lundi de Pâques nous en parler aujourd'hui à la Une de la Science. À demain, Axel.
À demain.
Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la part des Français ayant expérimenté la cocaïne a été multipliée par 4 en 20 ans. C'est ce que révèle aujourd'hui le baromètre sur l'usage des drogues et des produits illicites de l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Autre point à retenir, le cannabis lui attire de plus en plus les jeunes. L'usage chez les 18-25 ans a augmenté de 5% en 4 ans. Les résultats détaillés de l'enquête sont à lire sur le site de l'INPES et en lien sur la page Facebook de la Tête au Carré. Manger 5 fruits et légumes par jour peut faire baisser fortement la qualité du sperme. C'est ce que suggère une étude réalisée par une équipe d'Harvard sur 155 hommes fréquentant un centre de traitement de la fertilité. La consommation de fruits chargés en pesticides réduirait de moitié la quantité de spermatozoïdes par éjaculat et causerait la déformation d'un tiers d'entre eux. Si les chercheurs se refusent à toute conclusion hâtive, ils conseillent de privilégier les produits bio et d'éviter les produits connus pour leur forte teneur en produits toxiques comme les fraises ou les poivrons. Et puis pour finir, le LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde, a enfin redémarré hier après 2 ans d'arrêt. Le dernier court-circuit qui retardait depuis 10 jours la mise en route est réparé. Les équipes procèdent aux derniers tests et attendent maintenant les chercheurs du monde entier. Les premières collisions à haute énergie sont prévues pour le mois de juin. Allez, une liste pour éviter des médicaments inutiles, c'est le dossier dans un instant de la Tête au Carré.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Let us be. We belong to you and
know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
How deep is your love? Les Bee Gees à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Des milliers de médicaments inutiles, c'est ce que vient de révéler le magazine Science et Vie dans son dernier numéro en publiant une liste de 150 médicaments indispensables établis par des médecins. C'est donc le dossier de la tête au carré pendant lequel nous allons donc évoquer également des problèmes de conflit d'intérêts entre les autorités du médicament en France et l'industrie pharmaceutique. Pour en parler donc mes invités, professeur Claire Lejeune, vous êtes chef du service de médecine interne de l'hôpital Hôtel Dieu, vous avez participé à cette liste de 150 médicaments et puis vous êtes donc co-auteur d'un livre, La vérité sur vos médicaments, qui paraît chez Odile Jacob, livre dans lequel vous avez d'ailleurs déclaré vos liens d'intérêt.
Bonjour, oui,
quels sont-ils?
Alors, mes liens d'intérêt sont d'avoir réalisé des essais thérapeutiques dans le service avec les laboratoires Bayer ou Pfizer et avoir donné des conseils très ponctuels au laboratoire Roche, Lilly, BMS. Essentiellement.
Voilà, donc c'était important de le préciser. D'ailleurs, il y a un petit message de Dominique tout de suite qui nous dit ceci. Donc, des gens qui ont pour la plupart travaillé comme consultants pour l'industrie pendant des années vont nous dire la vraie vérité sur les médicaments. C'est un peu comme si des consultants travaillant régulièrement pour les médias faisaient la liste des émissions et journaux essentiels. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Oui, mais il vaut mieux être un praticien qui connaît les médicaments parce que je suis aussi professeur de thérapeutique. Mmh. Et je pense que quand on a une bonne connaissance des médicaments, c'est plutôt aux spécialistes qu'il faut s'adresser.
Bon, enfin, vous comprenez le problème, effectivement, qui peut être soulevé.
Je comprends. Mais enfin, une barrière absolue entre l'industrie pharmaceutique d'un côté, des prescripteurs de médicaments de l'autre, qui ne se parleraient jamais et qui n'auraient aucun échange, me paraît aussi totalement aberrant.
Michel Thomas, vous êtes professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Bobigny. Et vous êtes à l'initiative donc de cette liste des 150 médicaments indispensables. Avez-vous des liens d'intérêt à déclarer?
Aucun.
À ce micro?
Aucun.
Caroline Tourbe, vous êtes journaliste à Science et Vie.
Oui.
Et puis Pascal Pascarillo, vous êtes journaliste indépendante et collaboratrice à France Inter et à Mediapart. Les messages arrivent, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Caroline, donc, c'est votre magazine Science et Vie qui publie en exclusivité ce mois-ci cette première liste des meilleurs médicaments. Alors, vous n'aimez pas beaucoup, Michel Thomas, quand je parle de médicaments inutiles. Hein, je vous ai vu réagir, ça vous agace prodigieusement même.
Pas mal.
Oui, pourquoi?
Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute des médicaments inutiles. Il y a à l'heure actuelle 2800 substances actives commercialisées en France, sous, en 2013, 13 065 présentations différentes. Au passage, en 2008, il n'y en avait que 9900 présentations, ce qui montre un peu l'inflation.
Les génériques. Hein.
Et effectivement, là-dedans, il y a obligatoirement quelques médicaments qui ne servent pas à grand-chose. Ceci dit, beaucoup de médicaments qui ne sont pas dans les médicaments essentiels, et j'insiste sur le mot essentiel, c'est pas indispensable, c'est essentiel, c'est même pas préférentiel comme l'évoque le projet de loi actuellement en discussion. Les médicaments qui ne sont pas dans cette liste, ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont inutiles. Pour certains patients, rares, un petit pourcentage, ils sont indispensables. Et même pour des malades qui doivent être, méritent d'être traités en première intention par des médicaments reconnus comme essentiels, eh bien, chez certains malades, une petite frange de malades, pour des raisons de tolérance, pour des raisons parfois de relation médecin-malade également, eh bien, c'est un médicament voisin qui marchera mieux.
En tout cas, Caroline Tourbe, c'est vrai, en découvrant cette liste-là dans Science et Vie, on se dit qu'effectivement, avec 150 médicaments, on arrive à traiter 95% des maladies.
Je dirais que c'est la première surprise, et puis même si tout le monde ne se met pas forcément d'accord sur le nombre, sur entre 150, 200, 250, ça dépend, on est sur un nombre très limité, et que l'idée de faire cette sélection, elle est ambitieuse, elle est originale, elle semble d'utilité publique, et elle est surprenante pour le grand public. Quand on en parle avec des médecins, j'ai l'impression que beaucoup de médecins considèrent, oui, qu'eux-mêmes utilisent entre 150 et 200 médicaments, la plupart du temps, en prescription pour leurs patients.
Claire Lejeune, décidément, personne n'est d'accord autour de ce micro. Hein. Dès qu'on prononce une phrase, je vois tous réagir.
Non, alors, mais c'est juste pour préciser que la liste, de la liste ont été exclues quelques grandes classes thérapeutiques qui faisaient difficilement consensus. On a enlevé les vaccins. Et donc, c'est pas pour dire que les vaccins sont inutiles, loin s'en faut. Et au contraire, il faut promouvoir les vaccins. Ça, c'est la première chose. Et pareil, en cancérologie, on a décidé de ne pas parler des molécules de cancérologie, en sachant là aussi qu'il y a vraiment des molécules qui rendent des services énormes et qui permettent de guérir des cancers. Mais c'est pas le quotidien, et donc je crois qu'il faut bien servir.
Et ça déduit justement, donc vaccins et ce type de pathologie. Oui, Michel Thomas, on n'en arrive pas à 95% des maladies pourront être traitées par cette liste ?
Dans la liste des 151, il y avait un choix de médicaments anticancéreux. Dans l'étape actuelle, qui est une étape de validation, nous avons décidé de les exclure, parce que c'est un domaine qui est en plein renouvellement, très contestable, avec beaucoup de dérives financières aussi. Donc, on a dit, on le met de côté. Alors, effectivement, en mettant de côté les traitements anticancéreux, on ne traite pas 95% des pathologies. On est d'accord. Mais dans la liste des 151, on était dans ce cadre et on pouvait dire que c'était 90-95. C'est pas à quelques pourcentages près, c'est un ordre de grandeur.
Bon, donc on est quand même à peu près d'accord. 150 médicaments, c'était pour vous un objectif au départ, lorsque vous avez imaginé cette liste ou pas alors ?
Eh bien non, c'était pas un objectif. Au départ, j'ai sollicité un certain nombre de collègues, dont Claire Lejeune, et je leur ai demandé quelque chose d'impossible ou presque. Je leur ai dit, voilà, nous étions au mois de juin, est-ce que vous pourriez pour le mois de septembre me fournir la liste des 100 médicaments qui vous paraissent essentiels ?
Et alors, c'est un vrai challenge.
Ils l'ont fait. Et après, alors, on a décidé d'emblée que si au moins 6 sur 10 d'entre nous avaient choisi un médicament, une molécule, elle était considérée comme essentielle. On en a comme ça sélectionné 56.
Donc vous avez croisé toutes les listes.
Voilà, on a sélectionné 56 et après il y avait des tas de domaines où on n'était pas d'accord. On s'est réparti le travail, on a échangé par internet et on est finalement arrivé à une liste, si j'ose dire, complémentaire, qui a fait consensus absolu parmi nous 10.
Donc un peu la liste idéale, au
fond. De 44 médicaments, c'est ça qui était formidable, parce qu'on tombait pile poil à 100 par hasard. Alors c'est ce qui a été publié dans la revue de médecine interne au mois d'août 2013.
Donc ça, c'est la toute première liste.
C'est la toute première liste.
Uniquement des médecins internistes.
Voilà.
C'est ça.
D'emblée, nous nous sommes dit, Nous, internistes, nous sommes avant tout des hospitaliers. Nous avons des pathologies qui s'intéressent à l'homme dans son entier, mais qui sont quand même souvent un peu plus spécialisées. On a donc décidé de solliciter des médecins généralistes. Mmh. Dans un premier temps, dès l'été 2011, les médecins généralistes franciliens autour de la faculté de médecine de Bobigny, puis dès le mois de décembre, dans toute la France. Et c'est ainsi que 14 médecins généralistes ont été amenés à établir eux-mêmes leur liste, toujours de 100, qui a été poulé. On est abouti, après là aussi des discussions chez les généralistes, à une liste de 100 médicaments consensuels chez les généralistes. Et c'est en mélangeant les 100 médicaments des internistes et les 100 médicaments des généralistes qu'on était arrivé à 151 molécules. Ouais.
Comment était accueillie cette première liste alors au départ? Ça fait grincer quelques dents au passage?
Non, parce que cette première liste n'a pas été diffusée largement. Elle a été présentée dans notre congrès national. Et,
Donc vous avez été prudent quand même au départ.
Mais oui, mais c'est la moindre des choses dans un sujet important.
Caroline Tourma.
En fait, c'est un peu comme s'il y avait deux univers. C'est-à-dire qu'il y a un univers dont on est en train de parler avec le professeur Michel Thomas, qui est un univers de recherche, on peut dire universitaire, hôpital universitaire, des gens qui ont cette idée, je le redis, ambitieuse, originale, d'utilité publique, travaillent ensemble, établissent une liste, font un travail de consensus qui est en train d'être élargi. On dépasse la centaine de médecins qui travaillent sur cette liste. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a un contexte sur le médicament, sur des abus de prescription, des scandales dont on a parlé déjà, dont on a choisi le médiator, la santé de loi publique, la loi de santé publique qui est en train d'examiner en ce moment, où on entend parler également d'une idée de liste de médicaments préférentiels, et puis un peu comme dans un alignement de planètes, vous avez ce groupe de médecins qui se sont pris en main, qui développent une idée intéressante, et puis c'est cette loi qui pourrait prendre en compte. Alors est-ce que ça va se rencontrer? Est-ce qu'on arrivera après à avoir une liste justement qui fera un consensus suffisamment large pour ne pas provoquer des débats ou des choses comme ça? Peut-être ça se fera. Il y a des pays qui ont réussi à le faire. Il y a un pays qui a réussi à le faire.
La Suède. Voilà, on en parlera avec vous dans un instant parce que l'exemple est vraiment très très intéressant. Puis il y a un recul de 15 ans là quand même sur l'exemple suédois. Donc effectivement, la Haute Autorité de Santé devrait élaborer, valider une liste de médicaments à utiliser préférentiellement par des professionnels de santé, Michel Thomas.
Oui, c'est depuis 2012, un grand nombre de rapports officiels ont préconisé l'établissement en France d'une liste de médicaments essentiels, à chaque fois en citant l'exemple de la Suède, qui est effectivement un excellent exemple. Nous avons commencé à travailler quelques mois auparavant, c'est une coïncidence, mais il faut savoir que l'OMS, qui a établi la première des listes de médicaments essentiels en 1977...
Ouais. Pour les pays en voie de développement.
Oui, mais dès les années 90, avait demandé aux pays développés de faire leur propre liste. Dans l'Union européenne, seuls 5 pays l'ont fait, et le seul qui marche, c'est la Suède.
Professeur Lejeune, cette question de Christophe sur Twitter, les médicaments inutiles, pardonnez-moi, mais je reprends le terme, le sont-ils parce qu'ils sont devenus obsolètes? Et si oui, s'agit-il de rente pour les laboratoires?
Alors, c'est une très bonne question. En partie, ce qu'on appelle médicament inutile, et ça c'est à définir, parce que inutile, il faut rappeler que même le placebo a 30% d'efficacité. Donc qu'est-ce que c'est l'inutilité pour un médicament? On peut dire qu'un médicament peut être supplanté par l'arrivée sur le marché de nouveaux produits plus efficaces ou moins dangereux, et dans ces cas-là, ils disparaissent un peu. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça fait un petit moment que cette démarche de dérembourser des listes de médicaments probablement un peu anciens et évalués avec des critères beaucoup moins drastiques que les critères d'aujourd'hui, ça a été initié en 2000-2001 par la commission de la transparence qui a décidé de dérembourser 850 médicaments. Ça a été un charter à Pâques d'ailleurs, c'était exactement à cette époque-là. Et c'était la plupart de ces molécules étaient des molécules anciennes et pour lesquelles on avait des alternatives aujourd'hui. Ça ne privait pas les patients.
Allez, on se retrouve dans un instant suite de ce dossier. Et puis on va évoquer les conflits d'intérêts également dans la troisième partie avec Pascal Pascariello. Vos messages, franceinter.fr.
Petit, on se noie dans un verre d'eau. sait bien que l'on est seulement de passage. Infiniment petit, comme un simple numéro. Infiniment petit, on se noie dans un verre d'eau. Infiniment perdu dans l'infiniment
infiniment petit. Claire Diterzy sur France Inter avec cette tête au carré consacrée donc à la première liste des meilleurs médicaments. En tout cas, c'est comme ça que vous le titrez, Caroline Tourbe, dans votre numéro d'avril de Science et Vie, avec donc des milliers de médicaments qui ne serviraient à rien. Claire Lejeune, vous êtes avec nous. Michel Thomas, vous êtes tous les deux professeurs de médecine. Et puis Pascal Pascarillo dans quelques minutes pour parler donc de cet article qui fait beaucoup de bruit en ce moment autour des conflits d'intérêts entre les commissions de transparence et les laboratoires pharmaceutiques. Les messages franceinter.fr. Est-ce que le métier de visiteur médical va devenir compliqué à exercer avec une liste de 150 médicaments? C'est une question qu'on pourrait se poser. Pour l'illustrer, voici un extrait d'une vidéo qui présente cette profession.
Je vais parler du patient arthritique asymptomatique.
D'accord.
Le métier de visiteur médical, qui représente 20% des effectifs des entreprises du médicament, est une source précieuse d'informations sur les nouveaux produits pour les médecins.
En tant que visiteur médical, ma mission est de donner une information sur le bon usage du médicament, c'est-à-dire donner des informations nouvelles ou des informations en termes de changement d'autorisation de mise sur le marché et le bon usage, que celui-ci ne soit pas prescrit en dehors de ses indications. Le plus jubilatoire dans mon métier, c'est lorsqu'un médecin a prescrit et qu'il me le dit avant même que je ne lui parle de mon produit.
Bon voilà, ça nous fait plaisir de passer cette petite vidéo professionnelle pour parler du métier de visiteur médical. Michel Thomas, est-ce que vous pensez justement qu'avec votre mince liste, vous allez faire perdre quelques emplois au passage ou pas ?
Bien, je constate qu'il y a à peu près 15 000 visiteurs médicaux chargés de faire la publicité des produits de leur laboratoire,
mais oui.
Pas l'information, hein, c'est de la publicité. Et les visiteurs médicaux d'ailleurs ne s'en cachent qu'à moitié. On pourrait avantageusement les transférer en 15 000 visiteurs de l'assurance maladie.
Ah, vous allez les reciter,
chargés de présenter, cette fois-ci, sous une forme d'information et non pas de publicité,
oui.
Les gammes de produits disponibles.
Ah,
avec
c'est une idée.
C'est évidemment un peu une boutade, mais
ouais.
Je pense qu'il y a un défaut majeur, un manque majeur de visiteurs médicaux de l'assurance maladie face aux 15 000 de l'industrie.
Professeur Lejeune.
Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que la loi Bertrand sur la sécurité du médicament a quand même eu un frein net sur les visiteurs médicaux. Moi, je me souviens d'une période où dans les hôpitaux, il y avait des visiteurs presque à tous les coins de couloir. C'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Et la loi prévoyait qu'on les invite en réunion plénière au sein de nos services, que personne d'entre nous ne fait. Alors je parle de l'hôpital, bien sûr. Mmh.
Caroline Tourbe, vous parlez de l'exemple suédois. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais il est très intéressant, avec une liste, la liste SAGE, qui a été établie déjà en 2000. Est-ce que cette liste a bouleversé les pratiques, alors, chez les Suédois?
Alors la liste SAGE, la Kloka liste en suédois, Kloka. Mmh. Donc on a interrogé l'initiateur de cette liste. Et oui, ça a influencé énormément les prescriptions. Dans les derniers relevés, les dernières estimations, un peu plus de 90% des prescriptions correspondent
à cette liste.
Alors, qui est très détaillée. La liste là, qui est préliminaire, qui est présentée dans les pages de Sciences et Vie, la liste française, elle reste encore très peu détaillée. Et c'est un début. En Suède, c'est vraiment une molécule avec une indication précise. Mm-hmm. Tout est très, très, très détaillé. Et dans ce cadre-là, les prescriptions correspondent à 90%. Mais ça ne s'est pas fait en un seul jour. Hein. C'est ce qu'explique Lars Gustafsson. Oui. C'est qu'ils ont commencé en 2001 et qu'il a fallu une bonne dizaine d'années déjà pour que l'idée s'impose et que ça se fasse de façon automatique. Et cette liste-là, elle est la promotion de cette liste essentielle, elle est faite par le gouvernement et elle n'est pas que pour les spécialistes. Les patients y ont accès, les médecins évidemment, les associations de patients, c'est quelque chose qui est échangé et discuté.
Michel Thomas, détail important, cette liste n'est pas opposable. Libre aux prescripteurs de choisir un traitement évidemment qui ne figure pas sur la liste. Hein.
C'est le cas de toutes les listes de médicaments essentiels et c'est l'esprit de notre travail, bien entendu. Nous avons voulu, au sein de ce qui est maintenant le groupe Médicaments Essentiels de la Société Nationale Française de Médecine Interne, nous avons voulu proposer les meilleurs traitements. Et c'est une démarche positive qui nous semble tout à fait essentielle. C'est la même chose qui s'est passée en Suède. À l'heure actuelle, la liste suédoise comporte 260 molécules. C'est plus que nos 151, mais bien sûr, qu'elle est incomplète. Mais elle couvre toute la pathologie suédoise, y compris les soins les plus spécialisés.
Ouais. Alors, une telle liste, évidemment, doit évoluer chaque année, j'imagine, en fonction des nouvelles innovations ou de l'actualisation des données scientifiques. C'est comme ça que ça va fonctionner.
Notre travail a déjà évolué. Depuis 2011, il s'est passé des choses qui nous ont conduit à retirer telle molécule et à la remplacer par une autre. C'est le cas, par exemple, du diclofénac, un anti-inflammatoire promu à la télé, d'ailleurs. C'est le Voltarène, par exemple. Eh bien, nous l'avons retiré de la liste parce que depuis 2011, des publications importantes ont montré qu'il avait peut-être plus que les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, peut-être, des effets secondaires cardiaques très embêtants. Donc on évolue. Et évidemment, si une nouvelle molécule apparaît et qu'elle est véritablement essentielle, qu'elle bouleverse les données thérapeutiques, elle est, comme en Suède d'ailleurs,
elle
immédiatement
fera son entrée dans la liste,
intégrée dans évidemment. La liste.
Quid des industriels justement suédois? Est-ce qu'ils ont fait pression, Caroline, pour s'opposer à cette liste au départ?
Alors, ce qu'explique Lars Gustafsson, c'est ça. C'est que régulièrement, encore maintenant, enfin surtout au début, il y a vraiment eu la volonté de la part des industriels d'imposer certaines de leurs molécules. Des molécules
donc
qui...
des grosses pression quand même.
Des pressions importantes, surtout sur quand un industriel a beaucoup investi, sort une molécule dont il estime que la destinée c'est d'être largement prescrite à un grand nombre de malades, alors la pression peut se faire à ce moment-là. Lui, il explique, Gustafsson, que ils se sont érigés une ligne de conduite, des principes, des piliers pour la sélection des médicaments essentiels et qu'ils les appliquent. Voilà.
Michel Thomas, en France, les laboratoires, ils émettent déjà des avis particuliers sur cette liste. Est-ce qu'il y a quelques petites pressions
Oui, on peut dire que ça fait moyennement plaisir, au groupement des industries du médicament en France.
On imagine.
Que ce soit dans l'article de Science et Vie, les dires de Philippe Lamoureux, que ce soit très récemment sur les antennes de France Culture, le président du LEM, qui n'est pas tellement à l'aise avec ça. Et qui
c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Hein. Ouais. On écoute Jean-François Dehaec, qui est vice-président du Conseil National de l'Industrie, ex-PDG de Sanofi Aventis, et qui s'exprimait, alors c'est pas récent, c'est en juin 2006, au moment des assises santé de l'UMP, mais c'est intéressant de le réécouter.
Alors je vais défendre l'industrie pharmaceutique, je veux pas la défendre, de toute façon, il n'y a que les gens bien portants qui l'attaquent. Les malades, ils sont beaucoup plus conscients de l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, alors que les journalistes, que tout le monde attaque l'industrie pharmaceutique, ça ne me paraît pas très grave. Mon objectif avec mes godasses tricolores et mes bretelles tricolores, c'était depuis le début de bâtir pour la France une industrie pharmaceutique qui soit digne de ce nom. Bon, 35 ans après, Vous, les députés, vous adorez venir inaugurer mes centres de recherche et mes usines. J'aimerais que vous en souveniez un peu quand vous êtes assis à l'Assemblée nationale et quand vous votez les lois.
Voilà, et ça, c'est extrait d'un documentaire qui s'appelle « Les médicamenteurs » de Stéphane Aurel et Brigitte Rossignol, qui était passé en 2008. Caroline Tourbe, c'est intéressant de réécouter hein, ce PDG, ex-PDG de Sanofi Aventis.
Très hein.
D'autant que le labo de recherche a été fermé depuis.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, quand on a entendu parler de la liste des médicaments essentiels, je vous avouerai que c'est un peu, surtout à Science et Vie, on est un journal mm-hmm. où on aime l'innovation, enfin, on cherche aussi des gens qui font des travaux ambitieux sur des sujets lointains, quoi.
Ouais.
On s'est dit, mais alors une liste comme ça tue l'innovation, c'est possible que ça tue l'innovation pharmaceutique. Quand on y réfléchit, puis qu'on s'interroge et qu'on pose un peu les questions autour, on s'aperçoit que non. Ce qui est dit même, c'est que plutôt, ça permettrait de la recentrer, d'éviter de perdre trop d'argent pour faire une sorte de médicament MeToo, qui serait jamais qu'une basse copie d'un médicament qui existe déjà, puis qui va être génériqué, pour se focaliser sur des molécules réellement innovantes. C'est notamment ce qu'explique Gustafsson. Pour lui, de son point de vue, ce n'est pas quelque chose qui a bloqué l'innovation thérapeutique, qui bloque l'innovation thérapeutique. Ces 20-30 dernières années, l'innovation thérapeutique, elle a fait son chemin sans liste essentielle et on n'a pas l'impression qu'il y ait eu d'énormes innovations sur des maladies très larges. Il y en a eu, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui a bloqué.
Claire Lejeune, cette question de Clément sur franceinter.fr. Est-ce qu'on a demandé l'avis d'un pharmacien spécialiste du médicament pour établir cette liste? On n'entend parler que des médecins, souligne Clément.
Alors, c'est une bonne remarque aussi. Effectivement, notre travail au départ était une volonté de 10 médecins internistes qui ont décidé de faire cette liste. Et en entendant tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, cette liste, elle est l'émanation d'internistes et de généralistes. Elle n'est pas l'émanation de la Haute Autorité de Santé qui, le jour où elle décidera de faire le groupe de travail, fera bien sûr venir des pharmaciens, des prescripteurs d'autres horizons. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle représente les gens qui l'ont faite, mais pas plus aujourd'hui.
Et une des grosses surprises de cette liste, c'est que les médicaments les plus prescrits n'y apparaissent pas toujours. On va en discuter avec vous dans un instant. Ce sera dans la dernière partie de notre dossier franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous retrouver. Stuck in the shade, where there's no sunshine. TV on the radio.
La tête au carré sur France Inter.
Allez, la révélation sur la première liste des meilleurs médicaments. Donc, c'est dans Science et Vie au mois d'avril. Et puis, on en parle avec vous, professeur Michel Thomas, qui est à l'origine donc, de cette liste. Professeur Claire Lejeune, vous avez participé également à ce travail. Et puis, vous êtes aussi autour de cet ouvrage, La vérité sur vos médicaments, chez Odile Jacob, avec d'autres spécialistes qui répondent aux questions. Alors, je le disais tout à l'heure, professeur Thomas, la grosse surprise quand même de la liste, c'est que des médicaments stars n'y figurent pas, et pourtant très prescrits par les médecins.
Mmh. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les médecins prescrivent sous une très forte pression de la visite médicale et de l'industrie. Et donc prescrivent les médicaments à la mode. Mmh. Les médicaments à la mode, c'est ceux qui font l'objet de la publicité, dans ce domaine comme ailleurs.
Ouais. Alors justement, est-ce que c'est un gage d'indépendance, au fond, aussi, cette liste ?
Alors je pense que nous avons essayé de la faire en toute indépendance. Mmh. Et d'ailleurs, l'étape actuelle, qui est une étape de validation à très large échelle, puisque 101 médecins internistes à travers toute la France y ont participé, mmh, et 33 généralistes à travers toute la France, cette validation est basée sur la méthode Delphi, qui veut dire qu'une molécule ne peut être validée au minimum que si elle a une note médiane de 7 sur 9 ou plus, et si 80% des participants ont donné une note supérieure à 7. Si par hasard, parmi les experts, quelqu'un complètement pourri de lien d'intérêt voulait imposer une molécule, il n'a absolument aucune chance de la faire passer.
Ouais. Caroline, aucun médicament pour la maladie d'Alzheimer ne figure dans la liste.
Oui, il y a un intitulé maladie neuro. On a regardé, il y a des choses pour Parkinson, pour l'épilepsie.
Donc encore pas une fois, d'efficacité réelle.
Voilà, encore une fois, c'est une liste qui est un travail préliminaire. Mais ça m'étonnerait, en effet, quand on discute, qu'il y ait des molécules contre la maladie d'Alzheimer
Pascal,
qui apparaissent.
Pascal Riolo, d'ailleurs, ça rejoint un reportage que vous aviez fait pour Interception, sur cette question-là précisément.
Sur la question des médicaments, j'avais interviewé le professeur Dubois, qui m'expliquait qu'il prescrivait ses médicaments, et il a pensé qu'à un moment donné, le micro était éteint et il était allumé. Il m'a dit « Je ne peux absolument pas dire aux patients que je prescris des médicaments inutiles.
Mmh. » En tout cas, ils ne sont pas essentiels, c'est clair. C'est pas étonnant que les médicaments
contre
la maladie d'Alzheimer
ne soient pas dans la liste.
Ouais, professeur Thomas, dans la liste ne figurent pas non plus des traitements innovants, des nouveaux médicaments, où il y a eu beaucoup d'investissements, parce qu'ils n'ont pas convaincu non plus.
Soit parce qu'ils n'ont pas convaincu, soit parce que ce sont des médicaments de niche. C'est très à la mode dans l'industrie de développer une nouvelle molécule qu'on va vendre très très cher, avec un très petit nombre d'indications. Ouais. Alors, ça peut être des médicaments importants pour un très petit nombre de malades, mais ça ne mérite pas de rentrer dans une liste de médicaments essentiels telle que nous la développons.
Le paracétamol, professeur Lejeune, est-ce qu'il est dans la liste ou pas ?
Ah bah bien sûr, c'est aujourd'hui, le nombre de médicaments antalgiques est quand même assez restreint. Le paracétamol, quoi qu'en disent certains articles dont la méthodologie peut laisser à désirer, reste une molécule clé à condition d'en prendre une quantité limitée dans la journée qui est de l'ordre de 3 grammes par 24 heures et d'être conscient que le paracétamol est en association dans de nombreux médicaments et que paracétamol seul plus des associations peut mener à des quantités très importantes.
Les statines, est-ce que ça figure ou pas ?
Alors il y a deux statines qui figurent dans la liste pour le cholestérol. Alors les statines ont fait la démonstration de leur efficacité en prévention secondaire, c'est-à-dire une fois que les patients ont eu un événement cardiovasculaire, à ce moment-là, les statines font partie de la panoplie des médicaments prescrits par les cardiologues pour éviter une récidive ou une rechute.
Alors ce livre, La vérité sur vos médicaments, c'est une façon de répondre aussi à la question des statines au professeur Even.
C'était une façon de répondre, entre autres. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, et je crois que l'excès dans tout domaine est préjudiciable. Mm-hmm. Je pense que les statines ont transformé le pronostic d'un certain nombre de patients en association avec les autres médicaments de la prise en charge cardiovasculaire, et je crois qu'il ne faut pas revenir en arrière. Ce qu'on peut dénoncer, c'est le fait de prescrire des statines à tout le monde, et y compris à ceux qui n'en ont pas besoin.
Alors, professeur Thomas, pour terminer, avant de discuter avec Pascal Pascariello, cette liste, elle va vraiment émerger quand ? Alors, quand est-ce qu'elle va servir de référence, peut-être ?
de référence, je ne sais pas, mais nous devons nous réunir avec nos amis généralistes dans les semaines qui viennent pour finaliser l'écriture d'un article qui sera soumis. Alors après, les relecteurs décideront de l'accueil qu'ils lui feront.
Caroline,
oui,
pour conclure.
Oui, c'est pas forcément facile, on disait, de faire passer l'idée, de la faire valider à plus large échelle, de publier, pas forcément simple pour publier une liste comme celle-là.
Pascal Pascarello avec Michael Hagedenberg. Vous avez signé pour Mediapart une enquête qui montre des liens d'intérêt entre des hauts responsables du médicament en France et l'industrie pharmaceutique. Un véritable système d'entente entre les deux parties. C'est ce que vous avez découvert et que vous avez révélé il y a 15 jours maintenant.
Oui, complètement. C'était en fait des membres de commissions qui sont assez importantes. Je pense en particulier à la commission de la transparence qui va décider justement sa décision. C'est un jugement du médicament et de ce jugement dépend le remboursement, le taux de remboursement et le prix. Et les membres de cette commission, en particulier le président Gilles Bouvenot de 2003 à 2014, conseillaient secrètement les laboratoires et étaient rémunérés pour cela.
Voilà, avec de l'argent liquide, vous racontez des scènes absolument hallucinantes dans les hôtels marseillais en particulier, où on apportait des liasses de billets sur les lits des chambres d'hôtel.
Ouais, c'était soit mis dans le dossier, soit c'était sur les lits. C'était des sommes qui pouvaient aller jusqu'à, on nous a parlé de 60 000 euros, 100 000 euros. Et effectivement, avec de temps en temps des témoignages qui peuvent étonner, mais un ancien dirigeant d'un laboratoire d'UNBEC qui nous disait pour 60 000 euros on n'a pas l'impression de corrompre. Ou alors je pense également au propos...
Il faut savoir à quelle hauteur alors ils ont l'impression d'être corrompus.
Christian Jacot par exemple, qui est membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché jusqu'en 2012, qui nous disait mais on n'est jamais en conflit avec ses intérêts.
Ah bah c'est joli ça comme formule. Professeur Lejeune, il faut évidemment tout de suite préciser une chose extrêmement importante qui vous donne d'ailleurs une position particulière aujourd'hui autour de cette table, c'est que vous étiez vice-président de la commission de la transparence entre 1999 et 2011, donc c'est précisément cette période qui est citée dans l'article de Mediapart et pour l'instant d'ailleurs votre nom n'émerge pas dans cet article.
Alors, mon nom n'émerge pas dans cet article et je voudrais signaler que les conflits d'intérêts que j'ai pu déclarer en début d'émission n'existaient pas au moment où j'étais vice-présidente. C'est depuis que je suis plus vice-présidente que ces conflits existent. Enfin, conflit ou lien. Le lien, c'est le fait d'avoir une relation avec l'industrie pharmaceutique et on décide qu'il y a conflit quand, pour une tierce personne, ce lien devient... Voilà.
Alors, vous êtes tombé de votre chaise là, en découvrant l'article de Pascal Passerialo ou pas ?
Oui, je suis effectivement tombé de ma chaise, comme vous dites.
Parce que vous travaillez quand même de très près avec les gens cités. Vice-présidente et président...
Je travaillais effectivement, je ne dirais pas au quotidien, mais on avait des réunions... hebdomadaire. Oui. Et pour moi, on avait vraiment des consignes et des missions d'avoir une indépendance absolue vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Indépendance qui s'est renforcée après l'histoire Mediator de façon extrêmement forte. Et j'avoue être, pour le moment, en attente des résultats de l'enquête parce que j'ai du mal à... à accepter ces allégations qui figurent dans Mediapart.
Voilà, et donc de personnes qui étaient proches de vous professionnellement à ce moment-là, Pascal.
Tout à fait. Oui, c'est pas des allégations, c'est des faits. C'est des faits, et on a vraiment passé 9 mois d'enquête sur ce sujet. Et effectivement, alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que Gilles Bouvenot a toujours fait en sorte, donc le président de la commission de la transparence entre 2003 et 2014, a toujours eu cette image de chevalier blanc. Même quand il a revu des médicaments justement à la baisse des anti-Alzheimer, il a fait appel à des experts indépendants de l'association Le Forum Indep. Il a toujours fait en sorte d'avoir cette image-là. Et après, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que justement ce système-là mis en place par ce petit groupe dont il y avait Bernard Avoy, qui était également un ancien président de la commission de transparence, Christian Jacot, donc membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché, Jean-Pierre Régnier, c'est que les laboratoires n'achetaient pas la décision, ils n'avaient pas la garantie d'avoir une bonne décision ensuite, mais c'était comme s'ils achetaient un petit peu un ticket d'entrée, une forme de bienveillance à l'égard du médicament qui allait être jugé.
Ouais, alors ça, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes pour les consommateurs de médicaments ensuite, parce que ça influence évidemment la suite des choses, et pas toujours évidemment à l'avantage des patients.
Complètement, on peut rappeler qu'aujourd'hui, quand même, le trou de la sécu est de 14,7 milliards d'euros, donc sont mis sur le marché parfois des médicaments qui ne sont pas forcément utiles Et ça a des conséquences et parfois dangereux. Alors là, il y a deux enquêtes qui ont été justement un audit qui est diligenté par la Haute Autorité de Santé, qui a également...
Donc
aussi...
ça, ce sont les réactions, enfin les conséquences directes en fait, de la publication de votre article il y a 15 jours.
Suite à la publication de l'article, justement, la Haute Autorité de Santé
va déclencher hein, justement cet audit.
Un audit en interne, notamment sur deux médicaments, deux antidépresseurs, le Seroplex de Lundbeck et le Cymbalta de Lilly. Et parallèlement, surtout, a saisi le procureur de la République pour ouvrir une enquête préliminaire.
Professeur Lejeune,
je voudrais juste répondre, oui, parce que quand même, la commission, on est 20 membres à voter pendant les séances sur le service médical rendu qui détermine l'accès au remboursement. Et ces 20 membres, si vraiment il y avait vraiment des discordances majeures, ça pourrait être de la part de deux ou trois personnes, mais s'ils avaient un vote très discordant du reste du groupe, ça serait vraiment très visible.
Ouais.
Et je voudrais quand même souligner le travail fait par les experts, qui sont bénévoles pour faire ce travail, et qui travaillent, à mon sens, en toute honnêteté, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on était acheté pour faire notre travail.
Justement, comment pouviez-vous l'ignorer si les faits sont validés, confirmés, suite à l'article de Mediapart, alors que vous étiez au cœur de la commission.
Alors, on était au cœur, mais on était à Paris, dans la commission. Et c'est vrai que le président de la commission de transparence, quand il commençait ses sessions, nous demandait de façon très claire et très ferme de n'avoir aucun lien avec l'industrie pharmaceutique.
Ben oui, mais le problème, c'est qu'apparemment, c'est lui qui est visé au premier
chef. C'est lui qui
les
avait. Hein. Et c'est vrai que ces réunions se passaient, elles étaient tenues secrètes.
À Marseille,
secrètes,
hein,
voilà,
en
à Marseille
principe,
ou voilà. À Paris, dans des hôtels, elles ne se passaient pas à l'intérieur des instances du médicament.
On met le lien de l'article sur le site de la Tête au Carré, Pascal Pascariello, comme ça on pourra découvrir un petit peu l'enquête que vous avez menée et qui est sortie il y a 15 jours. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Science et Vie et dans les kiosques, pour découvrir donc la liste des médicaments.